Bonjour à tous, on va commencer. Bienvenue tout d'abord à cette nouvelle édition des conférences publiques de l'Institut d'astrophysique de Paris. Je m'appelle Patrick Hudelot, je suis directeur adjoint de l'Institut d'astrophysique. Je vais prendre quelques minutes au début, ça va être un peu particulier cette séance, je vais prendre quelques minutes pour vous parler un peu de l'histoire des conférences de l'IAP et d'un autre sujet. Donc vous avez pu voir dans le premier transparent, en fait on fête cette année les 30 ans des conférences publiques. Elles ont été initiées en 1995 par Jean Mouette, qui a été rejoint dans les années 2000 par Daniel Kunt. Et on compte aujourd'hui plus de 300 conférences avec une série fabuleuse ininterrompue entre 1995 et 2025. C'est vraiment une sacrée performance. Et donc depuis 1999, et puis les efforts de mise en place d'instrumentation pour la capture vidéo et audio, on a une prise de son, une prise vidéo et toutes les conférences sont archivées et consultables sur Canal U et YouTube. Donc, dans la recherche publique française, on a trois missions. C'est la recherche, bien évidemment, c'est l'enseignement et c'est aussi la diffusion des connaissances. Et ça fait de nombreuses années à l'IAP que la diffusion des connaissances est vraiment un pilier important de notre activité. Et on n'a pas attendu que ce soit un devoir pour le faire. On le fait parce qu'on aime ça. Et on pense que c'est vraiment essentiel de partager la recherche avec le grand public, avec vous. Tous les aspects de la recherche, les nouvelles découvertes, les doutes, les succès et tout ce qui tourne autour de cette activité. Donc en fait, les 30 ans des conférences publiques, c'est aussi un peu un cheval de Troie pour introduire un deuxième sujet. C'est pour vous présenter Jean Mouette, que la plupart d'entre vous connaissent, puisqu'il est à l'origine des conférences publiques. C'est vraiment lui le visage de la com à l'IAP depuis plus de 40 ans. Puisqu'il a été recruté en 1984. Il a reçu la médaille de cristal du CNRS en 2020. C'est la plus haute récompense que peut recevoir un ingénieur au CNRS pour récompenser son travail. Et il est le réalisateur de nombreux films pour lesquels il a reçu des récompenses, des films sur les éclipses solaires, sur les aurores boréales. Et la raison pour laquelle on en parle aujourd'hui, c'est que cette année, Jean part à la retraite. Donc il va laisser un grand vide à l'IAP. Et aussi un peu d'émotion pour les gens qui travaillent depuis pas mal d'années à l'IAP. Donc j'ai pas résisté à l'envie de ressortir quelques images qui montrent l'esprit d'aventure de Jean dans son travail pour faire passer sa passion. Donc là c'était une expédition en Angola pour un suivi d'éclipses solaires avec un autre chercheur de l'IAP, Serge Kouchmi. Et la deuxième photo, ça illustre son autre passion qui est celle de la traque des aurores boréales ici en Norvège. Où il passait des nuits couché dans la neige par moins 20 degrés. On voit ici combien il donnait de sa personne pour faire partager sa passion. Et donc c'était ces quelques mots pour lui dire merci au nom du laboratoire, de la direction du laboratoire, pour toutes ses actions pour le labo et surtout pour vous, pour faire partager sa passion et la science qu'on développe à l'IAP. Merci Jean. Et donc j'ai déniché une image qui me paraissait tout à fait à propos pour faire le lien avec l'orateur d'aujourd'hui. On va reconnaître sur la droite Jean, à gauche l'orateur d'aujourd'hui, Guillaume Hébrard, et puis au milieu, beaucoup auront reconnu Hubert Reeves, qui est un peu la figure tutélaire du partage de connaissances en astrophysique, et qui, si je crois, a été un peu à l'origine de la passion de Jean pour ce domaine de recherche. Donc Guillaume Hébrard, il est tout à fait légitime de parler lui aussi dans cette introduction, puisque avec Florence Duret, il a repris le flambeau des conférences publiques à l'IAP. Donc on va passer maintenant à la conférence de ce soir. Donc Guillaume Hébrard est directeur de recherche au CNRS. Il a soutenu une thèse de doctorat en 2000 sur l'abondance du deutérium, de l'ultraviolet au visible. Alors certains remarqueront que c'est une thématique qui est plus proche de la cosmologie, qui est quand même assez différente de ses activités de recherche aujourd'hui. Ça montre un peu le panorama vaste qu'on peut couvrir dans une seule carrière d'astrophysicien. Il a été recruté au CNRS en 2004 et donc il travaille depuis sur la détection et la caractérisation des exoplanètes. Et je vais donc lui laisser la parole. Merci à vous.
Merci beaucoup Patrick pour cette présentation. Donc moi ce soir je vais vous parler d'exoplanètes. On m'entend bien, c'est bon, tout fonctionne bien? Vous m'entendez bien, très bien. Donc je vais présenter une conférence qui s'intitule 30 ans et des milliers d'exoplanètes, puisque cette année nous fêtons, en fait le mois dernier, nous avons fêté les 30 ans de la détection de la première exoplanète, donc la première planète extrasolaire, la première planète autour d'une orbite autre que le Soleil. Donc c'est vraiment un événement extraordinaire, une découverte qui a constitué une révolution en astrophysique et pour la connaissance humaine de manière générale. Donc pendant cette conférence, je vais vous parler pas mal de choses qui sont issues du livre que je viens de sortir. J'en ai quelques exemplaires là, si certains veulent en avoir à la fin, je pourrais vous le dédicacer avec plaisir. Et d'ailleurs, puisque ce sont en fait le départ à la retraite de Jean, Jean, il n'est pas attentif, là, il discute, mais je lui dis, Jean Mouette, qui est au-dessus. Donc, puisque c'est ton départ à la retraite, je suis heureux de t'offrir un exemplaire du livre qui non seulement est dédicacé par l'auteur, mais avec une aquarelle originale de l'illustratrice à l'intérieur. Voilà, ça me fait plaisir de te l'offrir. Voilà. Donc, pendant cette conférence, je vais parler des choses qui sont dans ce livre et je vais également vous parler... Je vais vous présenter des choses qui sont dans un spectacle de planétarium qui est, que j'ai conçu avec l'équipe du planétarium de la Cité des sciences et de l'industrie à la Villette, qui est projeté à partir d'aujourd'hui. Donc la première, c'était aujourd'hui. Et puis donc, il va être projeté tous les jours jusqu'à décembre. Donc il y aura pas mal d'animations que je vais montrer pendant cette conférence qui viennent justement des travaux qu'on a pu faire avec l'équipe du planétarium de la Cité des sciences et de l'industrie. Donc pour commencer... cette conférence, on va partir au Palais de la Découverte. Alors le Palais de la Découverte, là, qui est à Paris, un très beau musée, donc on espère qu'il va réouvrir complètement très prochainement. Peut-être vous savez que le Palais de la Découverte, il a été créé par, juste avant la Deuxième Guerre mondiale, par le gouvernement de Front Populaire, au sein duquel la recherche était sous la responsabilité de Jean Perrin. J'aime bien raconter cette histoire, parce qu'il y a beaucoup de scientifiques qui se sont investis en politique. Mais là, il se trouve que Jean Perrin, donc un grand physicien, prix Nobel de physique, était ministre ou sous-ministre, enfin, je ne sais pas quel était exactement son titre, mais qui s'occupait de la recherche. Et donc, pendant ce gouvernement, a pu créer le Palais de la Découverte, a pu créer l'Institut d'astrophysique dans lequel nous avons le plaisir d'être ce soir. Il a créé le CNRS aussi. Il a créé l'Observatoire d'Haute-Provence, dont je vais parler un petit peu plus tard ce soir. Donc, voilà, tout ça pour dire que c'est... Moi, j'aime bien montrer des choses qui ont été faites donc, par des hommes politiques et qui, 90 ans après, sont encore pertinents. Et il se trouve que là, cet homme politique était un grand chercheur. Donc on s'éloigne du Palais de la Découverte, on va prendre de la hauteur, on va voir la Seine, Paris, avec l'IAP qui est juste là. On voit toute la région Île-de-France, la France, l'Europe, et puis on va voir donc, notre planète, la Terre, qu'on connaît bien évidemment, tout le monde a déjà vu cette image. Et donc la Terre, c'est l'une des planètes dans le système solaire, et vous le savez tous, je pense, on a 8 planètes dans le système solaire qui tournent autour d'une étoile, le Soleil. Si on regarde les différents composants dans ce système solaire, donc on a essentiellement une étoile, là elles sont à l'échelle pour leurs différentes tailles sur la gauche, là, qui remplit complètement l'écran. On a notre étoile, le Soleil. Donc une étoile comme le Soleil, c'est une grosse boule essentiellement d'hydrogène qui émet de la lumière, de la chaleur, de l'énergie. Et puis les planètes qui lui tournent autour, il y en a des géantes gazeuses, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, des plus petites, la Terre, Vénus, Mars, Mercure. Elles sont telluriques, on peut marcher dessus, certaines avec une atmosphère. Et donc, ils tournent autour de leur étoile, le Soleil. Le Soleil émet de la lumière, l'étoile émet de la lumière, les planètes reçoivent la lumière, l'énergie qui leur provient de leur étoile. Et donc, quand on regarde le ciel la nuit comme cela, toutes les étoiles qu'on voit dans le ciel, ça fait assez longtemps qu'on a compris que c'était des astres semblables au Soleil, donc de nouveau, des grosses boules d'hydrogène qui émettent lumière, chaleur et énergie. Et puis, ça fait assez longtemps également qu'on a compris que les planètes tournaient autour du Soleil. Donc il est assez naturel de se dire, bon, si le Soleil a des planètes qui lui tournent autour, et qu'il y a des planètes qui tournent autour, si les étoiles sont des astres semblables au Soleil, et qu'il y a des planètes qui tournent autour du Soleil, c'est assez naturel de se dire qu'il pourrait y avoir des planètes qui tournent autour d'autres étoiles que le Soleil. L'un des premiers à avoir émis cette hypothèse, c'est Giordano Bruno. Giordano Bruno, il était italien, il vivait au XVIe siècle. Giordano Bruno, c'est avant Galilée. Galilée, vous savez sans doute que c'est le premier qui a observé avec une lunette astronomique. Donc Giordano Bruno, c'est avant. Donc Giordano Bruno, c'est uniquement des observations à l'œil nu. Donc uniquement avec des observations à l'œil nu, par la force de la réflexion, de la déduction, il avait compris que les étoiles, c'était la même chose que le Soleil. Et puis il avait compris que les planètes qu'on connaissait tournaient autour du Soleil. Donc Giordano Bruno, il a dit, les autres étoiles, c'est pareil, les autres étoiles, elles ont des planètes qui leur tournent autour. Et il est même plus loin, il disait que ça lui paraissait complètement impossible ou très peu probable qu'elles ne soient pas habitées, ces planètes. Donc il allait vraiment très très loin. Moi, je suis assez stupéfait par cet esprit de, de déduction de Giordano Bruno. Et peut-être vous connaissez la fin tragique de Giordano Bruno. Pour avoir énoncé ce type de théorie, il a eu un procès par l'Inquisition de l'Église catholique et il a été condamné à mort, brûlé vif, exécuté. Donc en 1600, cette statue, elle est à Rome, sur la place sur laquelle il a été brûlé. Ceci dit, donc Giordano Bruno, c'était il y a 400 ans. Comment détecter une planète extrasolaire? En fait, c'est très difficile. Pendant des siècles, on n'a pas été capable d'en détecter. Je vous ai dit, la première a été détectée il y a juste 30 ans. Pourquoi c'est difficile? La méthode la plus naturelle qui vient à l'esprit si on veut détecter une planète extrasolaire, on prend une étoile, on prend celle-là par exemple, voilà. On prend un télescope, on grossit énormément, et puis, pof, on voit un petit point à côté de l'étoile. Au fur et à mesure du temps, on voit que le point il tourne autour de l'étoile. Ça y est, on a détecté une planète extrasolaire. Ça, c'est la méthode directe, par imagerie directe. Mais cette méthode, elle bute sur deux énormes difficultés qu'on peut représenter par cette animation où on voit un phare avec un oiseau qui lui tourne autour. Et donc, dans cette analogie, le phare, c'est l'étoile, et la planète, c'est l'oiseau. L'oiseau tourne autour du phare, l'oiseau est éclairé par le phare, de la même manière que la planète est éclairée par l'étoile. Mais on imagine qu'on voudrait détecter un oiseau qui tourne autour d'un phare, en faire son image, si le phare était situé à plusieurs centaines de kilomètres de nous. Et tout de suite, ça fait réaliser le défi énorme que constitue la détection directe d'une planète autour d'une autre étoile que le Soleil. Et encore, même un phare et un oiseau, c'est un tout petit peu moins défavorable qu'une planète avec son étoile, parce que la planète, elle est des millions, des milliards de fois moins brillante que l'étoile. Le rapport de contraste n'est pas aussi défavorable dans le cas d'un oiseau qui tourne autour d'un phare. Donc on le voit, c'est très difficile. Donc détecter une planète extrasolaire, ça n'a pas pu être fait pendant des siècles à cause de cette difficulté. Et donc, de ce point de vue-là, l'exoplanétologie, c'est-à-dire l'étude, la science des exoplanètes, n'a pas pu vraiment démarrer. C'est difficile de faire de la science quand on n'a pas d'observation. On pouvait même se dire, mais peut-être qu'on n'arrivera jamais à détecter une planète extrasolaire, tellement c'est difficile, hein, toujours cette histoire de l'oiseau et du phare. Et donc, peut-être que l'exoplanétologie, en fait, ne démarrera jamais, on n'arrivera jamais à faire de la science des exoplanètes. Et pourtant, rechercher, caractériser des planètes extrasolaires, c'est extrêmement intéressant pour tout un tas de raisons. La première, c'est démontrer l'existence des exoplanètes. Ça paraît assez raisonnable, tel Giordano Bruno, de dire le Soleil a des planètes qui lui tournent autour, donc c'est assez naturel d'imaginer que les autres étoiles, en tout cas beaucoup d'entre elles, peut-être même toutes, ont des planètes qui leur tournent autour. Mais tant qu'on n'en a pas détecté, on n'en est quand même pas complètement sûr. Il y avait même des théories, des arguments pour dire qu'en fait, le Soleil était une exception, qu'en fait, des planètes, ça se produisait, par exemple, quand deux étoiles passaient l'une à côté de l'autre, et ça, deux étoiles qui passent l'une à côté de l'autre, c'est extrêmement rare. Et donc, on ne pouvait pas exclure que, en fait, le Soleil soit l'une des rares étoiles dans la galaxie, voire pourquoi pas même la seule, l'unique, à avoir des planètes. Tant qu'on n'avait pas détecté de planètes extrasolaires, on ne pouvait pas répondre à la question de leur existence. Donc, c'est vraiment une question très importante de ce point de vue-là. Un autre objectif, pourquoi c'est intéressant de rechercher, caractériser les planètes extrasolaires, explorer la diversité de l'univers. Ça, c'est un des objectifs de toutes les sciences. Les sciences cherchent à explorer de quoi est constitué notre univers, qu'est-ce qu'il y a dans la nature qui nous entoure. Un autre objectif, détecter, étudier des systèmes planétaires particuliers. On connaît bien le système solaire, ces quatre planètes telluriques proches du Soleil, ces quatre planètes gazeuses plus éloignées. En trouver un autre et puis détecter, caractériser, voir quelles sont ses propriétés particulières, comment il est arrivé dans cet état-là, comment il va évoluer. Un cas particulier, c'est intéressant d'étudier ce type de cas pour eux-mêmes. C'est intéressant également de déterminer les propriétés statistiques des systèmes planétaires. Quand on avait un seul système planétaire, donc le système solaire, par exemple, on sait qu'on a quatre planètes telluriques proches de leur étoile, quatre planètes gazeuses loin de leur étoile. Est-ce que ça, c'est valable dans tous les systèmes planétaires? Quand on en a un, on a du mal à répondre à cette question. Avoir beaucoup de détections, ça permet de déterminer les propriétés statistiques des systèmes planétaires. Je vous ai donné un exemple, mais il y a évidemment beaucoup d'autres propriétés qu'on peut déterminer, et c'est de voir statistiquement quelles sont les propriétés des systèmes planétaires. Déterminer ces propriétés statistiques, ça permet également de mieux comprendre leur modèle de formation et d'évolution. Pour comprendre comment se forme et évolue le système planétaire, on prend les lois de la physique, souvent on fait des simulations sur ordinateur pour faire des gros calculs qui demandent beaucoup de temps de calcul. On peut faire ça analytiquement avec des équations, on peut faire ça en simulant avec des ordinateurs, on peut faire des mélanges des deux, en utilisant les lois de la physique, et puis là on voit quel type de système planétaire on va créer. Et ça après on le confronte aux observations. Quand on avait un seul système planétaire, le système solaire, on avait pas mal d'observations, on a énormément d'observations sur le système solaire, mais sur un seul système. Le fait d'avoir énormément de statistiques sur beaucoup de systèmes planétaires, ça permet de mieux comprendre comment se forment et évoluent les systèmes planétaires de manière générale. Un autre objectif également, c'est trouver des analogues à la Terre. Évidemment, ça intéresse beaucoup, on pourrait même utiliser le terme, ça fait un peu fantasmer de se dire, on va détecter un jour une planète similaire à notre planète la Terre, autour d'une étoile similaire à notre étoile le Soleil, parce qu'évidemment, il y a la grande question de la vie extraterrestre. Y a-t-il de la vie ailleurs dans l'univers ? Alors, on sait qu'il y en a sur Terre, dans les autres planètes du système solaire, il semble qu'il n'y en ait pas. Bon, peut-être qu'un jour on en trouvera, mais ça ne semble pas être le cas. Sur une étoile, dans le milieu interstellaire, dans ces domaines-là, enfin dans ces milieux-là, on n'a pas l'impression que la vie pourra apparaître et se développer. Peut-être qu'on se trompe, peut-être qu'on est trop conservateur et qu'en fait la vie pourrait se développer dans des systèmes aussi extrêmes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur la Terre, sur une planète comme la Terre, la vie peut apparaître et se développer. Donc rechercher des planètes analogues à la Terre, c'est la grande question de trouver un jour de la vie ailleurs que sur la Terre, la grande question, la vie extraterrestre. Et ça, c'est une question qui évidemment suscite tout un tas de choses en science-fiction, en romans, en films de cinéma, mais c'est aussi une question scientifique. Se poser la question de l'existence de la vie extraterrestre, c'est une question scientifique. C'est peut-être l'une des plus grandes, plus ambitieuses questions scientifiques qui existent. Ce n'est pas la seule, mais c'est l'une des plus ambitieuses, me semble-t-il. Alors, on n'a pas la réponse, je ne vais pas vous donner la réponse ce soir, mais évidemment, on a bien compris que rechercher des planètes extrasolaires, caractériser les planètes extrasolaires, c'est faire des pas pour apporter des éléments de réponse à cette question. Y a-t-il de la vie ailleurs dans l'univers que sur la Terre ? Alors les présomptions, c'était quoi les présomptions ? Quand on ne connaissait que le système solaire, on se disait on pourrait trouver des planètes sur des orbites quasi-circulaires, des orbites coplanaires, c'est-à-dire toutes dans le même plan, prograde, c'est-à-dire qu'elles tournent toutes dans le même sens, les planètes qui ont le même sens de rotation que leur étoile, un Jupiter à une unité astronomique, une Terre à une unité astronomique, en gros ça c'est les propriétés du système solaire. On se disait c'est assez raisonnable de penser qu'on va trouver des systèmes planétaires, exoplanétaires, donc autour d'autres étoiles que le Soleil, qui ressembleront un petit peu à notre système solaire. Eh bien, pas du tout. Ce n'est pas du tout ce qui a été trouvé, je vais vous le montrer là. On en a trouvé quelques-uns qui ressemblent un petit peu au système solaire, mais la plupart des systèmes planétaires qui ont été trouvés en 30 ans, ils sont très différents du système solaire et inattendus. Il y a 40 ans, il y a 31 ans, je pense que personne ne prédisait le type de système planétaire qu'on a détecté pendant ces 30 ans. Donc en 1995, j'y viens, la première planète extrasolaire a été détectée par les astronomes suisses Michel Mayer et Didier Queloz à l'Observatoire d'Haute-Provence, donc ici dans le sud de la France. On voit ici des zooms sur le télescope qui a été utilisé. Moi, j'en reviens juste. La semaine dernière, j'observais avec ce télescope pour des programmes en exoplanétologie. Et donc, je vais vous montrer quelques images. Alors oui, j'ai oublié quand même Michel Mayer et Didier Queloz pour cette découverte en 1995. Ils ont obtenu le prix Nobel de physique en 2019, la récompense la plus prestigieuse en sciences. Pour reconnaître à quel point leur découverte était extraordinaire et très importante. Alors, je vous montre quelques images de l'OHP qui ont été tournées justement par Jean Mouette, parce que c'est un peu la soirée de Jean quand même ce soir. Donc là, on voit comment ça se passe, un début de nuit à l'Observatoire d'Haute-Provence, quand donc, on est comme ça, le télescope s'ouvre et puis on le pointe dans différentes régions du ciel. Voilà, la même scène vue de l'intérieur, c'est un petit peu sombre, mais le cimier s'ouvre. Et puis le télescope apparaît et puis il se prépare pour mener des observations. D'ailleurs, au moment où on parle, il y a des observations qui sont en train d'être faites. D'ailleurs, on est diffusé sur YouTube, donc si ça se trouve, les personnes qui sont en train d'observer, ils sont en train d'écouter cette conférence, donc je peux leur passer le bonjour. Notamment, il y a Florian, qui est un jeune étudiant qui fait sa thèse entre ici, l'Institut d'astrophysique de Paris, et l'Observatoire de Paris, qui est en train d'observer. Et puis Johan, qui est l'opérateur, qui dirige le télescope. C'est lui qui a ouvert le cimier tout à l'heure, en début de nuit. Et d'ailleurs, il y a une petite panne sur Sophie ce week-end, donc tout à l'heure, j'étais encore au téléphone avec eux, donc je redonne mes instructions à Florian. Florian fait beaucoup de calibration cette nuit, parce que ça va beaucoup dériver très probablement. Voilà. Donc c'est ce télescope-là qu'ils ont utilisé, Michel Mayer et Didier Queloz, pour faire leur découverte en 1995. Et alors, comment ils ont fait ? Ils n'ont pas surmonté la grande difficulté de l'imagerie directe, de réussir à faire l'image d'un oiseau juste à côté de son phare, ou en fait, voir une planète juste à côté de son étoile. À cette époque-là, en 1995, on ne savait pas faire ça, donc ils n'ont pas réussi. Ils ont utilisé une méthode indirecte. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas vu la planète, ils ont détecté l'effet de la planète sur son étoile. Et pour comprendre ça, on peut prendre l'analogie très souvent utilisée pour cela, du lanceur de marteau, mais c'est une bonne analogie. On prend un lanceur de marteau qui fait tourner son marteau autour de lui. Quand il fait tourner son marteau, eh bien, il bouge un petit peu parce qu'il ressent l'effet de son marteau par le biais du filin métallique qui relie le marteau au lanceur de marteau. Donc on voit, il a une petite lumière sur la tête et au fur et à mesure du temps, il fait un petit mouvement. Et on sent bien que plus le marteau va être massif, plus l'amplitude du mouvement du lanceur de marteau va être grande. Et donc une planète autour d'une étoile, c'est la même chose. Donc la planète, c'est le marteau. Le lanceur de marteau, c'est l'étoile. L'étoile est bien plus massive, elle ne bouge quasiment pas. Évidemment, il n'y a pas de filin métallique entre l'étoile et la planète. C'est la force de gravité qui fait que la planète est attirée par l'étoile. Mais donc c'est la planète qui tourne autour de l'étoile, mais l'étoile également bouge un petit peu, puisqu'elle subit l'attraction gravitationnelle de sa planète. Et donc si on prend un astronome qui arrive et qui veut détecter la planète, donc il n'arrive pas à voir la planète de manière directe parce que la planète est trop proche de son étoile et trop peu brillante par rapport à l'étoile. Par contre, il peut mesurer très précisément son mouvement et notamment sa vitesse radiale, c'est-à-dire la vitesse projetée sur la ligne de visée. La ligne de visée, c'est la droite qui va de l'observateur jusqu'à l'étoile. On peut mesurer très précisément si l'étoile s'éloigne, s'approche, s'éloigne, s'approche. Et donc si on mesure la vitesse radiale d'une étoile, pour faire ça, on utilise la spectroscopie, on utilise l'effet Doppler. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a des méthodes très précises pour mesurer la vitesse radiale d'une étoile. Si on voit que l'étoile s'éloigne, s'approche, s'éloigne, s'approche, s'éloigne, s'approche périodiquement, on peut en conclure que quelque chose tourne autour de l'étoile, par exemple une planète. Et donc c'est cette technique-là qu'ont utilisé Mayer et Queloz en 1995. Ils ont observé l'étoile 51 de la constellation de Pégase, donc l'étoile 51 Pégasi. Ils ont mesuré la vitesse radiale en fonction du temps. On voit les différents jours de leurs observations. Donc c'est gradué en mètres par seconde. Quand c'est positif, ça veut dire que l'étoile s'éloigne. Quand c'est négatif, ça veut dire que l'étoile s'approche. On voit les mesures, les barres d'erreur. Il y a des variations de la vitesse, hein, c'est significatif. Hein, ces points-là, ils sont différents de ces points-là. Au fur et à mesure du temps, la vitesse de l'étoile varie. Une vitesse qui varie, c'est une accélération. Une accélération, ça correspond à une force. Donc cette étoile subit une force. La force, c'est la force de gravité de la planète qui les tourne autour. Et donc si on met le modèle sur cette figure, le modèle qui passe très bien par tous les points, donc un modèle d'une orbite d'une étoile qui aurait une planète qui lui tourne autour, ça marche très bien. Donc avec cette figure-là, quand ils ont montré ça en 1995, le 6 octobre 1995, lors d'une conférence dans la ville de Florence en Italie, eh ben, avec ces données-là, ils ont dit « Ah ben ça y est, on est une planète extrasolaire ». Donc c'était une assemblée comme ça. Dans l'assemblée, tout le monde était médusé, était scié, puisque ça faisait donc des siècles qu'on attendait la détection d'une planète extrasolaire. Eh ben, avec une figure comme celle-là, ça y est, il y avait une planète extrasolaire qui a été détectée. Donc, c'est de là que débute la révolution. C'est pour ces travaux-là qu'ils ont obtenu le prix Nobel de physique en 2019. Mais évidemment, on peut aller plus loin parce qu'on peut la caractériser, cette planète. Déjà, on peut mesurer sa période orbitale. Donc, on voit combien de temps elle met. Donc, on voit un minimum le 3, le minimum suivant, c'est le 7. Donc, la période orbitale, c'est 4,2 jours. Donc, une période orbitale de 4,2 jours, c'est-à-dire que la planète tourne très vite autour de son étoile. Enfin, la Terre, c'est 365 jours. Donc si elle tourne très vite, si on applique les lois de Newton, les lois de Kepler, ça veut dire que la planète est très proche de son étoile. Elle est à seulement quelques pourcents de la distance Terre-Soleil de son étoile. Et l'amplitude du mouvement, vous vous souvenez de l'analogie du lanceur de marteau, plus l'amplitude du mouvement du lanceur de marteau est grande, plus ça veut dire que la masse du marteau est élevée. Bien, c'est la même chose, plus l'amplitude est grande, plus ça veut dire que la masse de la planète est élevée. Donc là, le calcul est un peu... Enfin, l'amplitude, on voit, c'est 59 mètres par seconde, plus ou moins 59 mètres par seconde. Donc là, si on fait le calcul, 4,2 jours de période, 59 mètres par seconde, ça fait une masse d'à peu près une demi-masse de Jupiter. Donc Mayer et Queloz, ce qu'ils ont détecté, c'est une planète quasiment aussi massif que Jupiter, la moitié de Jupiter, mais donc c'est à peu près la même chose, hein, c'est presque aussi massif, donc une géante gazeuse, mais qui tourne en 4 jours autour de son étoile, alors que Jupiter, elle met 12 ans à tourner autour de son étoile. Donc ça, bah, on a appelé ça par la suite des Jupiter chauds, je peux vous montrer une... On n'a pas de photo de Jupiter chaud, mais on peut faire des illustrations, une vue d'artiste d'un Jupiter chaud, donc une planète grosse comme Jupiter, massive comme Jupiter, mais très proche de son étoile, et donc comme c'est très proche, c'est chauffé, on a appelé ça des Jupiter chauds. Et donc première surprise, la première planète extrasolaire, c'est quelque chose de complètement inconnu, qui n'était complètement inattendu, qui n'était pas du tout prévu. Dans le système solaire, s'il y avait une planète massive comme Jupiter qui tourne en 4 jours autour de son étoile, autour du Soleil, bien sûr qu'on l'aurait vu, on la connaîtrait, on la verrait à l'œil nu dans le ciel. Dans le système solaire, il n'y a pas de Jupiter chaud, on ne s'attendait pas à des Jupiter chauds. La première planète extrasolaire, c'est une surprise, c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas du tout. Donc à partir donc, de cette première observation en 1995, on peut déjà donner pas mal d'éléments de réponse à toutes les questions, à toutes les justifications que j'ai présentées au début. Je vous disais pourquoi rechercher, caractériser les planètes extrasolaires. Donc déjà, démontrer l'existence des exoplanètes, on en a trouvé une autre, on sait, le Soleil n'est pas la seule planète, n'est pas la seule étoile à héberger des planètes. On explore la diversité de l'univers. Dès le début, on trouve quelque chose qu'on ne connaissait pas. Donc, dès la première, c'est une découverte, quelque chose qui était complètement inconnu, inattendu. On détecte et on étudie les systèmes planétaires particuliers. On essaie de comprendre comment ça se fait qu'on ait une planète massive comme Jupiter si proche de son étoile. Ça, c'est très intéressant parce qu'en fait, si on regarde comment former ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de former une planète massive comme Jupiter si proche de son étoile. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais personne n'arrive à expliquer ça. Pourtant, on l'a vu d'autres par la suite. Donc, la seule explication, c'est que la planète s'est formée plus loin de son étoile, puis après a migré et s'est rapproché de son étoile. Donc ça, c'est très important, ça donne aussi des éléments pour comprendre les modes de formation et d'évolution. Avant la détection de la première planète extrasolaire, il y avait des dynamiciens et des dynamiciennes, des gens qui faisaient des calculs sur la dynamique, les relations entre les planètes dans le système solaire et leur étoile, le Soleil, et ils disaient, bah oui, Jupiter, elle n'est pas restée tout le temps à la même distance du Soleil, elle a migré, elle a pu s'éloigner, s'approcher. Bon, avant 1995, je ne dirais pas que ces gens-là n'étaient pas pris au sérieux, mais en tout cas, la migration des planètes dans le système solaire, ce n'était pas un sujet chaud, c'était quelque chose dont on pouvait parler peut-être un petit peu, mais une grosse difficulté, c'est qu'il n'y avait pas d'observation. Et en science, quand on n'a pas d'observation, bah, on a du mal à bien avancer. À partir de la détection du premier Jupiter chaud et des autres qui sont arrivés par la suite, c'était évident que la migration était quelque chose d'important pour les systèmes planétaires, y compris pour le système solaire. Et donc maintenant, alors je ne dis pas qu'on n'a pas tout compris de la migration, on a des bonnes idées sur ce qui provoque la migration, ce qui pourrait l'arrêter. En tout cas, aujourd'hui, ça viendra l'idée de personne de proposer un modèle de formation et d'évolution des systèmes planétaires sans prendre en compte la migration. Alors qu'avant 1995, quasiment personne ne faisait ça. Alors par la suite, bah, là, un résultat de l'année suivante, en 1996, donc autour de l'étoile 47 de la constellation Houma, la Grande Ourse. Donc on voit, vous comprenez bien ces graphiques maintenant, je pense, la vitesse radiale, donc l'étoile s'éloigne vers le haut, se rapproche vers le bas. En fonction du temps, on voit les années de mesure, les points en bleu de mesure, et puis la variation du mouvement de l'étoile. Donc l'étoile s'éloigne, s'approche. Et donc on peut voir que cette planète, elle a une période de 1094 jours, donc à peu près 3 ans. Vous voyez que le minimum, là, c'est à peu près 3 ans. L'amplitude 47 mètres par seconde, et ça correspond à 2 fois et demi la masse de Jupiter. Donc c'est un gros Jupiter, un Jupiter assez massif, qui tourne en 3 ans autour de son étoile. Cette figure, elle est assez intéressante parce qu'on voit qu'il y a des points au début, dans les fin des années 80, de temps en temps. Bah, à cette époque-là, ce n'était pas clair que la méthode des vitesses radiales allait permettre de détecter des planètes extrasolaires. Les planètes extrasolaires, on attendait ça depuis des siècles. On se disait, si ça se trouve même, on n'arrivera jamais à en détecter. Donc j'imagine que si on arrivait, on disait, bah, je veux faire un programme d'observation, je veux 30 nuits de télescope pour chercher des planètes extrasolaires. Bah, ce n'était pas facile de convaincre la direction de cet observatoire de donner du temps de télescope, parce qu'on disait, bon, les planètes extrasolaires, on sait que c'est très difficile. À partir de 1995, on sait que cette méthode marche et permet de détecter les planètes extrasolaires. Et donc vous voyez que là, ils observent comme des malades, et puis les barres d'erreur sont réduites. Alors ça ne veut pas dire qu'avant, ils travaillaient mal, ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, eh ben, il y a l'énergie, les moyens, la motivation pour faire progresser cette méthode des vitesses radiales. Et c'est souvent comme ça que ça avance la recherche. C'est des équilibres, des allers-retours entre les observations, la théorie, les connaissances. Là, les vitesses radiales, on faisait des méthodes des observations de vitesses radiales. C'était très intéressant pour tout un tas de thématiques, notamment l'étude des étoiles multiples. Mais on n'avait pas besoin d'une très, très grande précision. À partir de 1995, on se rend compte que plus on est précis, mieux on va détecter les planètes extrasolaires. Donc là, il y a beaucoup de gens qui se sont mis à travailler sur ces méthodes-là. Et donc, vous voyez que les mesures deviennent de plus en plus précises. Et ça continue. La précision des instruments en vitesse radiale continue à être augmentée toujours aujourd'hui. Un autre exemple, publié en 1997, l'étoile Upsilon de la constellation d'Andromède. Donc là, je monte de nouveau les vitesses radiales en fonction du temps. Alors, pas en fonction du temps, en fonction de la phase orbitale. C'est-à-dire que j'ai replié en phase. Vu que c'est quelque chose de périodique, vous voyez que ce point-là, c'est exactement le même que ce point-là. Vous voyez, ces trois points-là, on les retrouve de la même manière, exactement comme ça. Donc en fait, là, entre 0 et 1, c'est la position de la planète sur son orbite. Et donc, c'est périodique. Donc on voit que l'étoile s'éloigne. La période, c'est 4,6 jours, 74 mètres par seconde. Ça correspond à 0,7 masse de Jupiter. C'est quoi une planète comme ça ? Un Jupiter chaud. Une planète quasiment aussi massive que Jupiter, qui tourne en quelques jours. Donc ça, bah, on connaît bien maintenant. Mais ceci dit, quelque chose qui est intéressant, qu'on fait tout le temps en science, on compare les mesures avec le modèle. En fait, on calcule les résidus, c'est-à-dire on soustrait la valeur des mesures au modèle, et si les mesures sont bonnes et que le modèle est bon, eh bien, on doit trouver à peu près zéro ou quelque chose de l'ordre de grandeur des barres d'erreur. Or là, ce n'est pas exactement ce qu'on voit. On voit globalement, ça marche, mais on voit que les points ne sont pas exactement sur la courbe. Donc en gros, ça veut dire que ou les mesures sont mauvaises, ou les barres d'erreur sont sous-estimées, mais ce n'est pas le cas, les mesures étaient bonnes avec des barres d'erreur bien estimées, mais c'est que le modèle n'est pas bon. Plus précisément, le modèle est incomplet. Et donc pour voir qu'est-ce qui manque dans ce modèle, eh ben, on regarde le résidu. Donc là, on va prendre tous les points d'observation, et on va soustraire le modèle, et voici ce qu'on obtient. Donc là, le résidu, une fois qu'on a enlevé la contribution de la planète à 4,6 jours, et on voit les vitesses radiales, elles ne sont pas à zéro, ça bouge, et donc il y a autre chose qu'il faut mettre dans le modèle. Et cette autre chose, bah, je vous montre le modèle, ça ressemble à ça. on rajoute deux autres variations, une qui est faite à peu près 8 mois, quelque chose comme ça, et puis l'autre l'envoie deux maximum en 93 et 96 et quelques, à plus de 3 ans de période. Donc en gros, il y a deux autres planètes dans ce système planétaire. Donc c'est un système planétaire à 3 planètes, un système multiplanétaire. C'est le premier qui a été détecté, donc il a été annoncé en 1999. Je peux vous montrer une animation de ce système-là. Donc on voit au centre l'étoile Upsilon Andromède, donc une étoile qui ressemble pas mal au Soleil. Elle a une première planète, la planète Upsilon Andromède B, où j'ai oublié de vous dire, la planète, on l'appelle petit b, le nom de l'étoile avec un petit b. La deuxième planète, planète C, la troisième, planète D. Donc la première, la planète B, c'est un Jupiter chaud, un massif comme Jupiter qui tourne en quelques jours. L'autre, celle-là, elle a une dizaine de fois la masse de Jupiter, elle tourne en 8 mois. Et celle-là, bien plus éloignée, en 3 ans et demi, on a vu sur le graphique tout à l'heure, 3 ans et demi de période, qui elle aussi fait une dizaine de fois, même une quinzaine je crois, la masse de Jupiter. Alors ce système, il est intéressant parce qu'il fait à peu près la taille du système solaire interne. Là, on voit superposer, on va voir superposer, voilà les orbites de Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Donc c'est à peu près la même ordre de taille que le système solaire interne, sauf qu'une grosse différence, hein, ce sont des planètes géantes, alors que dans le système solaire interne, ce sont des planètes telluriques. Alors pour résumer, les vitesses radiales, elles permettent de mesurer la masse des exoplanètes, plus précisément la masse minimale, je pourrais en parler un peu plus tard s'il y a des questions là-dessus. Ça permet de mesurer la période orbitale des planètes. Ça permet de mesurer l'excentricité des orbites. Alors pour vous montrer ça, je peux vous montrer une orbite très excentrique. Vous voyez que la vitesse radiale en fonction du temps, je vous ai montré une belle sinusoïde tout à l'heure. Là, vous voyez que la sinusoïde est très déformée. Et c'est une orbite excentrique comme cela, une orbite qui n'est pas circulaire. Les orbites que je vous ai montrées tout à l'heure, c'était des orbites assez circulaires. La distance entre l'étoile et la planète ne varie pas en fonction du long de l'orbite. Là, la planète, des fois, elle est très loin de son étoile, des fois, elle est beaucoup plus près. Une excentricité de 0,64, et donc ça fait des courbes de vitesse radiale qui ont à peu près ce type d'allure. Alors, il y a beaucoup d'observatoires qui ont développé des spectroscopes pour mesurer des vitesses radiales précises des étoiles. Donc là, on voit l'instrument SOFIC, qui est donc en train d'observer actuellement l'observatoire de Provence, puisque la nuit est tombée depuis une heure et demie, je pense. L'instrument ARPSNOR, qui fonctionne aux Canaries. L'instrument SPIROU, qui est installé au télescope Canada-France-Hawaï, ou l'instrument EXPRESSO, qui fonctionne sur le plus gros télescope du monde, 4 télescopes de 8 mètres dans la cordillère des Andes au Chili. Tous ces instruments-là sont utilisés par la communauté qui s'intéresse aux exoplanètes, et notamment par des chercheurs et des chercheuses, ici à l'Institut d'astrophysique de Paris. Alors, je vais arrêter de vous parler des vitesses radiales pour un moment, et je vais vous montrer un film qui a été tourné en Australie en novembre 2012, par Jean Mouette. Voilà, je mets beaucoup de Jean Mouette dans cette soirée. Donc on était en Australie. Alors en fait, on était presque ensemble. Donc on était en Australie, sur la côte ouest. Jean était plus dans les terres, là où il a tourné ce film. Moi, j'étais plus au bord de la mer. Et donc je voyais le soleil se lever au bord de la mer. Le soleil se levait en allant vers la gauche. Hein, on est dans l'hémisphère sud. Et ce jour-là, ce matin-là, il y avait une éclipse de soleil. Alors pourquoi je vous en parle? Déjà pour montrer le film de Jean, parce que ça me fait plaisir. Parce que j'aime bien les éclipses aussi. D'ailleurs, vous savez sans doute qu'il y a une éclipse qui va avoir lieu le 12 août prochain. Elle sera visible en Espagne, donc n'hésitez pas à y aller. S'il y a des gens dans cette salle qui y vont, des gens qui nous suivent sur YouTube et qui vont y aller, peut-être on se croisera. Moi, j'ai prévu d'y aller. Et donc, qu'est-ce qui se passe pendant une éclipse? Eh bien, on a la Lune qui passe devant le Soleil et qui éclipse la lumière du Soleil. Et donc, c'est très spectaculaire. Là, sur le film de Jean, on le voit en temps réel. Donc, je vais juste m'arrêter de parler. On va voir l'éclipse arriver. C'est magnifique quand même, voilà. Alors pourquoi je vous montre ça? Comme je vous ai dit, parce que j'aime bien les éclipses, mais aussi parce qu'on a un petit peu la même chose pour les planètes extrasolaires, on appelle ça un transit. Quand une planète extrasolaire passe devant son étoile vue depuis la Terre, on a quelque chose comme ça. Alors c'est moins spectaculaire, en effet, c'est même encore d'autant moins spectaculaire qu'en fait on ne voit même pas ça. Là ce qu'on voit c'est le disque de l'étoile avec le disque de la planète qui passe devant, mais en fait on ne voit pas ça parce que l'étoile elle est tellement loin qu'une étoile c'est un point. Donc en fait, on ne voit pas le disque de l'étoile, on ne voit pas un point qui passe devant. Par contre, on peut mesurer très précisément la quantité de lumière qui vient de l'étoile, et on va voir ça. On voit la brillance de l'étoile qui va baisser à un moment donné, et si la planète tourne autour de l'étoile, on va avoir une baisse de la lumière périodique. Donc par exemple, toutes les 10 nuits, on va avoir une baisse de la lumière, on va dire qu'il y a une planète qui tourne en 10 jours autour de cette étoile-là. Donc ça, c'est la méthode des transits, et c'est une méthode extrêmement puissante pour détecter, caractériser des planètes extrasolaires. C'est celle qui a permis la plupart des détections en 30 ans. Donc la première a eu lieu en 2000, elle a été publiée en l'an 2000, le transit de la planète HD 209-458b. Alors c'est une planète extrêmement célèbre, je ne triche pas, je peux vous donner le nom, HD 209-458b. Tous les gens qui font de l'exoplanétologie connaissent cette planète tellement elle est célèbre. C'est un Jupiter chaud, il tourne en 3 jours, c'est une planète massive comme Jupiter qui tourne en 3 jours et demi autour de son étoile. Et puis bah, toutes les 7 nuits, puisque 3 jours et demi bah, c'est la nuit, puis 3 jours et demi après c'est le jour, donc on ne le voit pas. Toutes les 7 nuits, on voit un transit de la planète devant son étoile. Là, on voit la quantité de lumière qui vient de l'étoile en fonction du temps, et puis pouf, ça baisse, et puis ça remonte. Donc ça, c'est la première qui a été détectée en l'an 2000. Et ce système planétaire HD 209-458b, c'est l'un des plus étudiés. Et donc, je vous propose qu'on parte voyager sur HD 209-458. Donc, on quitte la Terre. On va partir faire un petit voyage interstellaire. On voit le Soleil qui s'en va. Donc, ça va nous prendre quelques instants pour faire ce voyage. Et puis, on va arriver sur la planète, l'étoile HD 209-458 et sa planète qui lui tourne autour, donc un Jupiter chaud qui tourne très proche de son étoile et qui, vu depuis la Terre, passe juste devant son étoile. Donc si on mesure la quantité de lumière qui vient de l'étoile, on voit une baisse de la lumière. Et donc ça, c'est le fait qu'elle soit en transit, ça a permis énormément d'études, notamment l'étude de l'atmosphère de cette planète. Et je vais pouvoir vous montrer là, à la fin de cette animation, des travaux qui ont été faits par mon collègue Alain Lecavelier, qui est ici à l'IAP, où il a pu calculer à quoi ressemblera un coucher de Soleil si on était dans l'atmosphère de cette planète. Et donc on voit l'étoile là qui se couche avec les couleurs. Et donc ces couleurs sont, alors c'est une animation, ça a été fait artificiellement, mais les couleurs sont celles auxquelles on s'attend étant donné la couleur de l'étoile et les composés chimiques qui ont été détectés dans l'atmosphère de cette planète. Voilà. Alors je vous ai montré des belles images là. Là je vais vous proposer qu'on fasse un peu de calcul. Il n'est pas trop tard, je pense qu'on peut un peu réfléchir là. Donc on va essayer de calculer ensemble quelle va être la profondeur d'un transit, c'est-à-dire par combien de pourcents va baisser la lumière d'une étoile si une planète lui passe devant. Donc on imagine une planète comme Jupiter qui passe devant une étoile comme le Soleil, et donc je vous donne les ordres de grandeur. La taille de Jupiter, le rayon, le diamètre de Jupiter, c'est 1/10, donc 10% de la taille du Soleil. Donc ma question, c'est si on a un objet qui fait 10% de la taille de cet autre objet, par combien de pourcents va baisser la lumière de cet objet de l'étoile? Alors, je vous écoute. Sur YouTube, il y en a qui peuvent donner des éléments. Je ne sais pas si tu suis, tu peux dire s'il y a des réponses, des bonnes, des mauvaises. 1%, voilà, personne n'est tombé dans le panneau. Ben, j'espérais que quelqu'un dirait 10, personne n'a dit. En effet, c'est 1%. C'est 1%. La lumière de l'étoile va baisser de 1%, puisque la quantité de lumière qui vient de l'étoile est à peu près proportionnelle à la surface apparente de l'étoile. Et donc, la surface, ça varie comme le carré du rayon. On voit bien que si on voulait paver toute la surface apparente de l'étoile avec, avec cette planète, il ne faudrait pas en mettre 10, il faudrait en mettre une centaine. Et 1%, c'est bien ce qui a été détecté. Je vous remonte la figure de tout à l'heure. On voit le flux de l'étoile là. La lumière baisse un peu, 1%, c'est là, un peu plus de 1%. Mais à l'ordre de grandeur, c'est ça. Et maintenant, on imagine une planète Terre qui passe devant, une planète grosse comme la Terre, ou petite comme la Terre, plus précisément, qui passe devant l'étoile grosse comme le Soleil. Là, la Terre, elle fait 1% de la taille du Soleil. Donc là, on la voit, elle est ici. C'est tout petit. Et donc là, la quantité de lumière, la baisse de lumière d'une étoile avec une planète comme la Terre qui lui passe devant, c'est 0,01%, 1/10, 1% de 1%, donc c'est vraiment rien du tout. Là, on voit 1% sera 1/100, là, on ne pourrait pas le détecter avec ces observations-là. Ces observations-là, elles ont été faites avec un petit télescope depuis la Terre. C'était tellement intéressant que ça a été refait depuis l'espace. Là, on voit la même observation faite avec le télescope spatial Hubble. Vous voyez que c'est bien plus précis. Mais donc là, c'est 1%. Donc 1/10, c'est 1% de ça, c'est tout petit. Même depuis l'espace, détecter une planète petite comme la Terre, devant une étoile grosse comme le Soleil, c'est un défi, ce n'est pas facile à faire. Alors, je rappelle là ce que permettent de mesurer les vitesses radiales. Les transits, eux, permettent de mesurer la taille des exoplanètes, comme on vient de le voir, l'inclinaison de leur orbite, puisque une planète, elle n'est en transit que si l'orbite est exactement alignée avec la ligne de visée, pour que la planète passe devant l'étoile vue depuis la Terre. Ça permet de mesurer très précisément la période des orbites, ça permet de mesurer tout un tas de choses. Donc, en fait, les transits sont très puissants, et même le mieux, c'est des planètes qui sont détectées à la fois par transit et par vitesse radiale. Par vitesse radiale, on a la masse, par les transits, on a la taille. Donc si on a la masse et la taille, on peut déduire la densité, donc on peut savoir si c'est solide ou si c'est gazeux. Donc vraiment, la méthode des transits est extrêmement puissante, et beaucoup d'efforts sont investis pour détecter les planètes en transit, parce qu'un transit, c'est rare. La plupart des planètes extrasolaires ne sont pas vues en transit. Vues depuis la Terre, elles passent juste au-dessus ou juste en dessous de leur étoile, donc on n'arrive pas à les détecter. Donc c'est extrêmement peu efficace. la méthode des transits, mais très puissant. Donc énormément de missions ont été lancées pour faire ça, notamment le satellite Kepler qui a volé il y a quelques années. Il a regardé la même région du ciel pendant des années. Il a regardé des centaines de milliers d'étoiles pour voir s'il y en avait qui, de temps en temps, avaient une baisse de lumière. Il a détecté des milliers de planètes. Il y a eu énormément de résultats. On peut considérer qu'en exoplanétologie, il y a deux révolutions. La première, c'était il y a 30 ans. C'est le résultat de la détection de la première planète extrasolaire par Michel Mayer et Didier Queloz. La deuxième révolution, on peut dire, c'est le satellite Kepler et l'ensemble des résultats du satellite Kepler qui s'étale sur plusieurs années. Vraiment, Kepler a produit énormément de résultats. Actuellement, Kepler ne fonctionne plus. Actuellement, il y a un autre satellite qui fait ça, c'est le satellite TESS. Donc là, vraiment, on est beaucoup à travailler là-dessus. Ce soir, l'Observatoire d'Haute-Provence, peut-être à l'instant même, ils sont en train d'observer l'un des candidats de planètes révélés par le satellite TESS. Et puis bientôt, l'Agence spatiale européenne, l'ESA, va lancer une mission Plateau qui va de nouveau chercher des planètes en transit avec l'ambition affichée de détecter des planètes comme la Terre en orbite en à peu près un an autour d'étoiles comme le Soleil et en transit. Donc ça, c'est extrêmement ambitieux, mais c'est l'objectif de cette mission Plateau qui a été acceptée, financée, qui est en construction, qui est en fin de construction, qui va bientôt être mise en orbite. Donc on espère que dans 5, 10, 20 ans, la mission Plateau aura permis de découvrir des exotères autour, en transit devant des exosoleils. Alors, je vous ai parlé de deux méthodes jusqu'à présent, la méthode des vitesses radiales, la méthode des transits, donc des méthodes indirectes, mais la méthode directe permet de faire des découvertes maintenant. Donc là, je vous donne un exemple de détection directe de planètes extrasolaires. Je ne vais pas rentrer dans les détails comment est-ce qu'on a réussi au bout de plusieurs siècles à relever ce défi, donc je répète, le défi de faire l'image d'un oiseau qui tournait autour d'un phare si le phare était à peu près 1000 km de nous. Donc ça a été relevé, notamment en utilisant... Alors là, on voit sur cette image-là, en haut à gauche, en décembre 2014, l'étoile est juste là, et l'étoile, elle est masquée par une technique qui fait une sorte d'éclipse artificielle, de nouveau les éclipses, pour masquer l'étoile, pour être moins ébloui par la lumière de l'étoile. Et donc, on voit une planète. Et puis, au fur et à mesure du temps, on voit les différents mois d'observation, au fur et à mesure du temps et des années, la planète se rapproche de plus en plus de l'étoile. Et même là, pouf, elle est passée de l'autre côté. Donc là, on a fini par détecter des planètes par la méthode directe. Là, je vous montre un autre exemple de détection directe. Là, on voit un film. Toutes ces images-là, ce sont de vraies images. Ce ne sont pas des images artificielles. Ce sont des vraies images qui ont été faites. Là, on voit le temps qui défile. Et donc autour de cette étoile, l'étoile est ici, mais elle est masquée de nouveau pour qu'on ne soit pas trop ébloui. On voit qu'il y a quand même de la lumière qui dépasse, mais il y a une planète, deux planètes, trois planètes, quatre planètes. Donc ça, c'est un système multiplanétaire qui est vu en imagerie directe. Et pour vous donner une échelle, là, on voit la taille de l'orbite de Saturne. Donc ce sont des planètes très éloignées de leur étoile et très massives. Elles font plusieurs fois la masse de Jupiter, ce type de planètes qui sont vues en imagerie directe. Alors, un autre objectif, c'est de déterminer les propriétés statistiques des planètes extrasolaires. Alors ça, maintenant, on peut le faire, puisqu'aujourd'hui, 4 novembre 2025, alors il n'y a plus des planètes pendant une trentaine d'années, je reprends le titre d'un livre d'Alfred Vidamanjar, on connaît 6148 exoplanètes aujourd'hui, dans 4584 systèmes exoplanétaires, puisqu'on connaît 1030 systèmes multiples. Alors ces chiffres, il faut les prendre, ça va, ça vient, on en a de plus en plus qui arrivent, des fois, il y en a qui seront rétractés, donc je ne garantis pas que les 6148 sont toutes des planètes, c'est possible qu'il y en ait quelques-unes qui aient des erreurs, mais globalement, on a à peu près 6000 exoplanètes qui ont été découvertes en 30 ans. Et donc, quand on a 6000 et puis donc 4500 systèmes planétaires, alors qu'il y a 30 ans, enfin 31 ans, on en avait un seul, eh ben on peut commencer à faire de la statistique, évidemment. Donc, je vais vous montrer quelques résultats de statistiques sur cette figure qui montre les planètes extrasolaires en blanc, en fonction de leur masse planétaire en masse terrestre, on voit une masse terrestre, 10, 100, 1000 masses terrestres, et en fonction de leur période orbitale. Donc plus on est vers le haut, plus la planète est massive, plus elle est grosse, et plus on est vers la droite, plus la planète met longtemps à tourner autour de son étoile, donc plus elle est éloignée de son étoile. Et donc sur cette figure-là, il y a 8 points de couleurs différentes, ce sont les 8 planètes du système solaire pour comparer avec le système planétaire, le seul qu'on connaissait jusqu'à il y a 31 ans. Donc on voit ici la planète Mercure, Vénus, la Terre en bleu, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Et en blanc, donc, les planètes extrasolaires caractérisées, du moins celles dont on connaît la masse et la période orbitale. Donc quelque chose saute aux yeux tout de suite. On n'a pas trouvé de planètes comme dans le système solaire. Alors peut-être des Jupiter, Saturne limite, on a trouvé des exo-Jupiter, mais des exo-Terre, des exo-Mars, des exo-Uranus, des exo-Neptune, pour l'instant, on n'en a pas. Alors est-ce que ça veut dire que ça n'existe pas, que le système solaire est un cas unique ? Probablement non, Bon, on a quand même du mal à donner vraiment la réponse parce qu'on n'en a pas détecté d'autres. Mais probablement non, parce qu'en fait, s'il n'y a pas de planète dans ce domaine-là, en bas à droite de cette figure-là, c'est un gros biais lié aux observations, c'est que c'est très difficile de détecter des planètes de petite taille, de petite masse, éloignées de leur étoile. On a du mal à les détecter. Moi, j'avoue que je n'ai pas beaucoup de doutes. Je pense que mes collègues n'ont pas beaucoup de doutes non plus. C'est très vraisemblable que cette région-là va être peuplée au fur et à mesure. Notamment, Plato va peupler cette région-là en trouvant des petites planètes plus éloignées de leur étoile. Mais ceci dit, les planètes extrasolaires qu'on a trouvées, donc il y en a plein et on peut faire de la statistique. Alors déjà, il y en a plein. Elles sont très différentes de celles qu'on a dans le système solaire. Et puis, dans toute cette région-là qu'on a explorée, dans laquelle on arrive bien à voir des planètes, elles ne sont pas réparties uniformément. On voit qu'il y a des familles de planètes. Ça saute aux yeux. Il y a combien de familles d'exoplanètes ? 3, c'est extrêmement clair. Donc on va décrire, pour finir cette conférence, ces 3 familles de planètes. La première, on va prendre celle qui est autour de Jupiter, donc des planètes qui font quelques 100, 1000, 10 000 fois la masse de la Terre. Ça ressemble à Jupiter, des périodes orbitales de centaines, milliers, dizaines de milliers de jours. Ce sont des planètes géantes froides, similaires à Jupiter, presque similaires à Saturne. Hein, probablement, elles s'étendent encore sur cette zone-là, cette population. Des Jupiters froids. Ces planètes-là, ces planètes géantes éloignées de leur étoile, on a évalué qu'il y avait 10 à 20% des étoiles qui en avaient. Donc ce sont des planètes assez fréquentes, mais il n'y en a pas partout. Il n'y en a pas autour de toutes les étoiles. Maintenant, cette population-là, ce sont des planètes peut-être légèrement moins massives que celles qui étaient en haut à droite, mais à peu près la même masse, donc à peu près la masse de Jupiter, donc ce sont des Jupiters, mais des périodes orbitales beaucoup plus courtes, quelques jours, donc ça, ce sont les Jupiters chauds, comme la première 51 Peg B, et puis toutes les autres Jupiters chauds qu'on a trouvés, donc la population des Jupiters chauds. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est est-ce que là, on voit qu'il y a moins de planètes ici ? Est-ce que le fait qu'il y ait moins de planètes là, c'est réel, ou est-ce que c'est un biais lié aux observations ? Je vous ai dit tout à l'heure, le fait qu'il n'y ait pas de planètes là, c'est probablement pas réel, c'est essentiellement lié aux observations. Et bien là, ce trou-là, ce manque de planètes ici, donc des planètes géantes entre 10 et 100 jours de période à peu près, lui, il est réel. Pourquoi je peux le dire ? Parce que trouver des planètes ici, à longue période, de 100 000 jours de période, c'est plus difficile que de trouver des planètes à 10 ou 100 jours de période. On a plus de facilité à trouver des planètes là que de trouver des planètes là. Donc si on n'en trouve pas ici, ou beaucoup moins, alors que c'est plus facile à trouver, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un déficit de planètes. Et ça, c'est une information très importante, qui de nouveau était complètement inconnue il y a 30 ans. Les planètes géantes, il y en a loin de leur étoile, et il y en a quelques-unes proches de leur étoile, et entre les deux, il y en a très peu. Ça nous informe sur les modes de formation et surtout d'évolution des systèmes planétaires. Comme je vous ai dit, les planètes géantes, elles se forment loin de leur étoile, et puis certaines migrent et se rapprochent pour devenir des Jupiters chauds. Et elles ne restent pas trop dans cette région entre 10 et 100 jours, elles se rapprochent et elles restent dans la région à quelques jours de période. Ça, évidemment, ça nous informe beaucoup sur le mode d'évolution des systèmes planétaires. Alors, les Jupiters chauds, on en connaît beaucoup, parce que ce sont les moins difficiles à détecter. C'est les planètes massives qui tournent en quelques jours. Si on a un bon télescope, en quelques jours, on peut détecter un Jupiter chaud. Mais donc, si on essaie de corriger le fait, on en a trouvé beaucoup, mais on sait que ce sont les moins difficiles à détecter, si on essaie de corriger ça, de débiaiser, pour utiliser un mot du jargon, on arrive à voir, on estime qu'il y a à peu près une étoile sur 100 qui est un Jupiter chaud. Donc les Jupiters chauds sont des planètes assez rares, il n'y a pas beaucoup de Jupiters chauds en fait dans la galaxie, seulement une étoile sur 100 en possède, et donc le fait que le Soleil n'ait pas de Jupiter chaud, ce n'est pas tellement étonnant, il est comme 99% des étoiles, il n'a pas de Jupiter chaud. La dernière population, c'est la population des petites planètes, et donc là, on voit que là, entre les deux, il y a moins de planètes. Donc ça suggère de nouveau qu'il y a deux populations, les planètes géantes, à longue ou à courte période, et puis les planètes plus petites. De nouveau, on pourrait se dire, est-ce que ce manque de planètes-là, c'est réel ou est-ce que c'est un biais lié aux observations ? Eh bien, de nouveau, je vous dis que c'est réel, parce que les planètes en bas, là, à petite masse, elles sont beaucoup plus difficiles à détecter que les planètes ici. Et pourtant, il y en a beaucoup plus là que là. Donc c'est clair qu'il y a deux populations de planètes, des géantes et des plus petites planètes. Ça aussi, ça nous renseigne énormément sur les modes de formation et d'évolution des systèmes planétaires. Et donc ces planètes-là, alors on en connaît un certain nombre, plusieurs centaines, et de nouveau, on pourrait se dire, essayer d'évaluer quelle est leur abondance, est-ce qu'elles sont fréquentes ou est-ce qu'elles sont très rares dans la galaxie. En fait, ces planètes-là, ce sont les plus difficiles à détecter. Elles sont très peu massives, elles ont une toute petite taille, donc sur les courbes de lumière, ça va faire un transit très peu profond. En vitesse radiale, ça va faire une amplitude de vitesse radiale très faible, donc c'est les plus durs à détecter. En gros, pour détecter ces planètes-là, il faut vraiment consacrer beaucoup de temps de télescope. Donc on n'arrive pas à en détecter tant que ça. Et donc, si on, et pourtant, on en connaît beaucoup. Donc, si on, de nouveau, si on corrige, on débiaise le fait qu'elles sont difficiles à détecter et le fait qu'on en trouve beaucoup, on peut estimer leur abondance. Combien d'étoiles ont des planètes de ce type-là? Et bien là, on trouve que quasiment toutes les étoiles en ont. Ces planètes-là, elles sont très fréquentes dans la galaxie. Quasiment toutes les étoiles en ont. Et si on les regarde plus précisément, on voit que la plupart, elles ont une masse intermédiaire entre Uranus et Neptune et la Terre et Vénus. Vous voyez qu'il y en a beaucoup qui sont dans ce domaine-là. Donc on a appelé ça des sous-Neptunes ou des super-Terres, un peu moins massives que, Neptune, un peu plus massives que la Terre. Des sous-Neptunes, des super-Terres, dans le système solaire, il n'y en a pas. En tout cas, à ces périodes-là, qui tournent en quelques jours, 10, 100 jours de période autour du Soleil, de nouveau, s'il y avait une planète qui faisait deux fois la masse de la Terre, trois fois la masse de la Terre, qui tournait autour du Soleil en 100 jours, bien sûr qu'on l'aurait vue. On la connaîtrait depuis toujours, on la verrait à l'œil nu dans le ciel. Dans le système solaire, il n'y a pas de super-Terre, il n'y a pas de sous-Neptune. Les super-Terres, les sous-Neptune, c'est une découverte qui n'a pas 30 ans, là, c'est un peu plus récent, ça a peut-être 20-25 ans. Mais maintenant, quand on regarde l'abondance des super-Terres et des sous-Neptune, on se rend compte qu'il y en a quasiment partout. Quasiment toutes les étoiles ont des super-Terres et des sous-Neptune, mais pas le Soleil. Et donc là, pour le coup, c'est vraiment un résultat un peu dérangeant, assez extraordinaire. Ces planètes-là, dont on ne soupçonnait pas l'existence il y a 30 ans, on se rend compte qu'elles sont très abondantes en fait. Et le système solaire, bah pour le coup, il se distingue. Il n'a pas de super-Terre et de sous-Neptune. Ça, de nouveau, je trouve que c'est un des résultats les plus étonnants de l'exoplanétologie. Alors, combien de temps me reste-t-il? Je vais finir en parlant un petit peu des mieux comprendre les modèles de formation et d'évolution pour vous montrer un petit peu comment on fait ça. Je vous ai donné déjà quelques éléments. Alors ce graphique, il est un petit peu compliqué, je vais vous montrer, ce que l'on voit ici, c'est, on prend une, ça a été fait à partir de mesures de vitesse radiale, on prend une population d'étoiles, quelques centaines d'étoiles, et on cherche si elles ont des planètes, donc on voit qu'il y en a qui n'ont pas de planètes, ou en tout cas pas au-delà d'une certaine masse, et donc on caractérise, on voit qu'il y a l'abondance de planètes autour de cette population d'étoiles, et donc on peut mettre le nombre de planètes en fonction de la masse des planètes. Ça, c'est l'histogramme qui est en blanc ici, c'est ce qui a été détecté. Donc on a trouvé dans cet échantillon, je ne sais plus combien il faisait d'étoiles, probablement quelques centaines d'étoiles, il y avait cinq ou six planètes ont été trouvées à quelques masses de la Terre, une dizaine de masses de la Terre, on a trouvé à peu près 20 planètes, etc. En blanc, c'est l'histogramme, la masse des planètes, le nombre de planètes qui sont détectées en fonction de leur masse autour dans cette population d'étoiles. Mais évidemment, ça, c'est énormément biaisé, puisque ces planètes-là, elles sont beaucoup plus difficiles à détecter que les planètes plus massives. Donc on peut faire quelque chose, on peut essayer de débiaiser, de corriger des biais d'observation en prenant en compte le fait que les planètes les moins massives sont les plus difficiles à détecter. Et ça, c'est le résultat de la courbe bleue. En bleu, c'est la même courbe que la courbe blanche, mais corriger des biais d'observation. Et donc on voit que là, les planètes à très petite masse semblent être peu fréquentes autour d'étoiles, mais en fait, on n'en connaît pas beaucoup parce qu'elles sont très difficiles à détecter. En fait, elles sont très abondantes, avec une grande barre d'erreur, parce qu'évidemment, on a du mal à bien estimer ça, puisqu'on a peu de mesures, mais en tout cas, enfin, peu de planètes détectées. Mais en tout cas, en bleu, on voit qu'il y a énormément de planètes de petite masse. Et donc, en gros, les observations nous disent que plus la masse des planètes est faible, plus les planètes sont abondantes autour de leur étoile. De nouveau, ça, c'est un résultat complètement inconnu il y a 30 ans. Dans le système solaire, on a 4 planètes telluriques, 4 planètes gazeuses, bon, on va dire c'est moitié-moitié, il y a autant de grosses planètes que de petites planètes. Et bien, si on regarde toute la population qu'on connaît avec les 6000 planètes qu'on connaît maintenant, ce n'est pas du tout le cas. Les planètes les moins massives sont largement plus abondantes que les planètes les plus massives. Et donc ça, on peut utiliser cette distribution de masse pour contraindre les modèles de formation et d'évolution des systèmes planétaires. Et c'est ce qui est fait sur la figure suivante. Sur la figure suivante, je vais reprendre là cette distribution en masse des planètes connues. On la voit ici, elle est en blanc, c'est la même courbe que tout à l'heure. Et en jaune, ce que l'on voit, c'est une prédiction d'un des modèles de formation et d'évolution des systèmes planétaires. Et donc, c'est justement ça qu'on cherche à comparer. Alors, comment elle est faite, cette courbe jaune? Par des gens, des collègues, des chercheurs, des chercheuses, qui utilisent de nouveau les lois de la physique, qui prennent des équations analytiques, qui font des simulations numériques, qui font tourner leur corps en utilisant ces lois de la physique pour voir quel type de population de planètes ils arrivent à former. Et en gros, ils reproduisent bien le fait qu'ils forment plus de planètes peu massives et moins de planètes plus massives. Donc, les modèles reproduisent à peu près bien ce qui est observé. Alors, on voit qu'il y a quelques différences. Vous voyez que, par exemple, vers 10 masses de la Terre, il semble que les modèles ne reproduisent pas suffisamment de planètes par rapport à ce qui est observé. En fait, cette figure, elle paraît un peu un peu compliquée, peut-être si vous ne l'aviez pas vue avant. J'ai essayé de vous la faire mieux comprendre en passant du temps à l'expliquer. Je pense qu'il faut essayer de réaliser tout ce qu'il y a comme travail, comme connaissance derrière cette figure. Pour faire cette courbe en blanc, il a fallu observer des dizaines d'étoiles, des centaines d'étoiles, avec des instruments qui ont été perfectionnés pendant des dizaines d'années, des nuits de télescope, de nouveau, comme ceux qui sont nos collègues qui sont en train d'observer en ce moment même avec Sophie à l'Observatoire d'Haute-Provence, plein de nuits d'observation sur des centaines d'étoiles, des dizaines de programmes, pour remonter à l'abondance des planètes en fonction de leur masse. C'est la courbe blanche. Et puis la courbe jaune, eh ben, c'est des gens qui, devant leur ordinateur, sur leur papier, écrivent des équations, prennent les lois de la physique pour essayer de comprendre comment se crée et évolue le système planétaire. Et puis on compare, et puis ça marche à peu près bien. Eh ben, c'est ça la science. La science, c'est les allers-retours entre la courbe jaune et la courbe blanche. On a des modèles, on a des observations, on compare les deux. Généralement, ce n'est pas parfait. Les observations ne sont pas, souvent pas en complet accord avec les prédictions. Eh ben, on améliore les observations, on améliore les prédictions, et c'est comme ça que notre connaissance progresse. Et pour finir, je vais aborder la dernière question. Alors, trouver des analogues à la Terre et rechercher la vie extraterrestre. Alors, je vous ai déjà dit, je n'aurai pas la réponse. Mais je vais faire une prédiction. Je vais me mouiller, puis en plus, on est filmé. Je vais vous dire quand on aura la réponse. Avec une barre d'erreur, quand même, sur la durée. Alors, pour vous montrer ça, je vais vous parler un petit peu de spectroscopie. On imagine qu'un astronome observe une étoile, et puis, pour observer le spectre de l'étoile, je n'ai pas beaucoup parlé de ça, mais c'est décomposer la lumière de l'étoile en fonction de sa couleur, en fonction de la longueur d'onde. Et ça, c'est très puissant, ça permet de remonter notamment, ben, on l'a vu tout à l'heure, à la vitesse de l'étoile, mais ça permet également de remonter à la détection des espèces chimiques présentes dans l'atmosphère de cette étoile-là. Maintenant, on imagine que sur la ligne de visée de cette étoile-là, il y a une planète qui tourne autour de l'étoile, hein, et puis une partie de la lumière traverse l'atmosphère de la planète, une partie de la lumière de l'étoile traverse l'atmosphère de la planète, si on a une planète en transit, hein, c'est l'une des raisons qui font que les planètes en transit sont très intéressantes, et bien le spectre il va être différent parce qu'il va avoir la signature de l'atmosphère de la planète. Et donc ça, cette technique-là, elle est utilisée depuis très longtemps. Bah, d'ailleurs, l'équipe d'Alfred Vidal-Majar, à laquelle j'ai le plaisir d'appartenir, a réalisé l'une des premières détections d'une atmosphère d'exoplanète il y a une vingtaine d'années, donc ici même, à l'Institut d'astrophysique de Paris, avec des observations du télescope spatial Hubble. Et depuis, il y en a eu plein. Il y a vraiment, c'est une thématique qui est vraiment très en pointe aujourd'hui, détecter, caractériser les atmosphères des planètes extrasolaires. Vous avez probablement entendu parler du télescope James Webb qui a été lancé il y a quelques années. Il a beaucoup de programmes et déjà beaucoup de résultats pour détecter, caractériser les atmosphères des planètes extrasolaires. Il y a plusieurs dizaines de planètes extrasolaires pour lesquelles on a détecté l'atmosphère et on a vu des dizaines d'espèces chimiques, moléculaires, atomiques, ioniques dans les atmosphères des planètes extrasolaires. Et donc, je vais finir en parlant d'éclipses de nouveau, voilà. Mais d'éclipses de Lune ce coup-ci. Vous savez ce que c'est une éclipse de Lune ? C'est quand la Terre passe juste entre le Soleil et la Lune. Alors, la dernière éclipse totale de Lune, c'était le 7 septembre 2025. Alors, j'espère que vous l'avez observée. Non, des gens disent non. Alors, il y en a qui disent oui quand même. Alors, si vous l'avez loupé, si vous avez oublié de sortir dehors ce soir-là parce que vous étiez distrait, il y aura une prochaine éclipse totale le 28 août 2026. Donc, la loupez pas celle-là. 28 août, il devrait faire beau. Et pourquoi je vous montre ça ? Parce que là, je vous montre une très belle photo d'une éclipse de Lune. Alors, ce n'est pas une photo de Jean Mouette, non, c'est une photo de Thierry Legault, son compère d'observation d'aurore polaire. Et donc là, on voit l'ombre de la Terre projetée sur la Lune, puisque la Terre se trouve pile alignée entre le Soleil et la Lune. Et donc ça, de nouveau, c'était une idée de notre collègue Alfred Vidal-Majar. Si on observe la Lune pendant une éclipse, une partie de la lumière du Soleil a traversé l'atmosphère de la Terre, et se réfléchit sur la Lune. Et donc, d'une certaine manière, si on observe la lumière du Soleil qui a traversé l'atmosphère de la Terre et qu'on voit sur la Lune, ça revient un petit peu à observer une planète extrasolaire qui passera en transit devant son étoile et la lumière de l'étoile traverse l'atmosphère de l'exoplanète. Ça ressemble un petit peu. Donc, avec cette idée-là, Alfred Vidal-Majar il a proposé d'observer une éclipse de Lune, c'était le 16 août 2008, hein, c'est déjà assez vieux comme résultat. Et donc là, je vous montre le résultat. Alors, de nouveau, cette figure elle est un petit peu compliquée. Ça a été fait avec le spectroscope SOFIE, de nouveau, qui est en train d'observer là ce soir, à l'Observatoire d'Haute-Provence. Alors, ce que l'on voit là, je vais essayer de vous décrire cette figure, on voit le spectre d'absorption de l'atmosphère de la Terre en observant cette éclipse de Lune. Donc, en gros, on voit l'intensité en fonction de la longueur d'onde. L'observation, c'est en blanc, là. Alors, vous allez me croire, je vais vous dire. Ce que l'on voit là, on voit une signature de l'ozone, la molécule d'ozone, O3, une signature, deux petites signatures de molécules de dioxygène, et puis la pente, là, c'est la diffusion Rayleigh due à l'azote, la molécule d'azote. Donc, en gros, en faisant cette observation-là, on a pu détecter dans l'atmosphère de la Terre l'azote, l'ozone et l'oxygène. Bon, là, pour le coup, ça ne vaut pas un prix Nobel. Ce n'était pas une découverte foudroyante de savoir qu'il y avait ces trois espèces, ces trois molécules dans l'atmosphère de la Terre. On n'a pas besoin d'une éclipse pour voir ça, on le savait. Mais on l'a détecté cette nuit-là, un petit peu comme si la Terre était une planète extrasolaire. Et donc, c'est là que je vais finir en faisant ma prédiction. Je vous ai parlé tout à l'heure du télescope Plateau, qui va être lancé en orbite d'ici peu, dans quelques mois, avec comme but de détecter une planète comme la Terre, qui tourne en un an autour d'une étoile comme le Soleil, et qui est en transit. Tous les ans, une fois par an, elle passe juste devant son étoile. Moi, je n'ai pas beaucoup de doutes que Plateau va y arriver, donc mettons dans 5, 10, 15 ans, voilà, Plateau aura une planète, vraiment, on sera sûr de notre coup. Elle sera comme la Terre, elle tourne en un an, elle fait la taille de la Terre, elle tourne en un an autour d'une étoile qui est comme le Soleil, et tous les ans, elle fait un transit. En ce moment, on construit également l'Extrême Large Télescope, un télescope énorme, 40 mètres de diamètre, dans la cordillère des Andes au Chili. La France participe à ce programme extrêmement ambitieux qui coûte plus d'un milliard d'euros. C'est vraiment un très gros projet, un très beau projet. Ce télescope-là, il va être capable d'observer cette étoile tous les ans, une fois par an, quand la planète lui passera devant. Supposons qu'il fasse une observation là. Alors ça, je fais une prédiction de nouveau. Allez, on va mettre 10-15 ans pour trouver ça. Le transit, il se fait tous les ans. Allez, mettons dans 30 ans, dans 35 ans, dans 40 ans, voilà, dans quelques dizaines d'années. Ce télescope géant, il sera capable de faire le spectre d'une exotère détecté par Plateau qui passera en transit tous les ans devant son étoile. Supposons que ce télescope fasse le spectre de cette étoile-là à ce moment-là et qu'il voit ça. Il voit exactement cette signature-là. Donc on aura une planète comme la Terre qui tourne en un an autour d'une étoile comme le Soleil et dont l'atmosphère sera très similaire à l'atmosphère de la Terre. Donc ça sera un résultat extraordinaire. Donc quand il arrivera, j'espère que vous vous souviendrez de cette conférence. Et je vous propose de m'arrêter là et je vous remercie de m'avoir écouté.
Merci. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous, puisque je n'ai pas eu la chance de vous dire bonsoir encore. Puisque nous avons eu le plaisir d'écouter Patrick Hudelot parler de gens à qui je souhaite aussi rendre hommage, et puis parler ensuite de Guillaume. Alors j'ai deux petites choses à vous dire avant de vous passer les questions, passer le micro pour les questions. D'abord, les prochaines conférences de l'IAP. Donc le 2 décembre, ce sera Sébastien Renaud-Pétel de l'IAP, qui, dans le cadre d'une conférence internationale qui aura lieu toute cette semaine-là, viendra nous parler de l'inflation cosmologique, l'univers primordial comme laboratoire pour la physique fondamentale. N'ayez pas peur, c'est un petit peu effrayant, mais en fait, je l'ai entendu récemment faire un exposé au moment où il a reçu la médaille de bronze du CNRS, et pour un sujet qui est très très loin de mes préoccupations quotidiennes, j'ai eu l'impression de comprendre plein de choses, donc venez. Ensuite, ce sera l'année 2026, et donc le 6 janvier, nous recevrons François Hamer de l'Observatoire de Meudon. Je ne sais plus comment s'appelle le laboratoire, les noms des laboratoires ont changé, je ne sais plus. Bon, le luxe, non ?
L'IAP, on ne change pas de nom.
Ouais. Non, voilà, l'IAP, on ne change pas de nom, mais à l'Observatoire, tous les 20 ans, ils changent les noms des laboratoires, donc je ne pourrais pas vous dire dans quel laboratoire il est. Mais ce n'est pas grave, il va parler de la dynamique des galaxies du groupe local, donc cette fois-ci, on est un peu plus loin que les exoplanètes, mais on n'est pas encore très très loin. Quel est leur contenu en matière sombre ? La matière sombre, vous savez que c'est toujours un problème. Et le 3 février, nous aurons Jean-Philippe Usan de l'IAP qui nous parlera du modèle cosmologique standard entre succès et tension. Voilà, maintenant, deuxième annonce, Guillaume a écrit un livre. Certains d'entre vous sont déjà venus se le procurer avant la conférence. Il y en a encore quelques-uns disponibles. Donc, après la séance de questions, si vous souhaitez en acheter un et vous le faire dédicacer, Guillaume sera ravi de le faire. Maintenant, est-ce que vous avez des questions ?
Dans le graphique modèle corrigé des abondances en fonction de la masse, pourquoi il y a un énorme creux à 8-9 masses ? Voilà.
C'est justement ça, ça nous informe beaucoup sur les modes de formation des planètes. En gros, en dessous d'une certaine masse, la planète n'accrète pas de gaz. Et au-delà d'une certaine masse, elle va accréter du gaz. Et là, ça va énormément, ça va devenir beaucoup, beaucoup plus massif. C'est pour ça qu'il y a ces deux populations, des planètes peu massives et des planètes plus massives. Et entre les deux, il y a un manque de planètes parce que justement, il n'y a pas de processus pour. En gros, ou on forme des petites planètes, ou alors on en forme des grosses. Et si c'est gros, ça devient vraiment très gros, enfin très massif. Donc c'est une information très très forte qu'on voyait dans la distribution des planètes. Là, quand vous avez vu, tout de suite, vous avez vu qu'il y avait trois populations. Mais entre les massives et les peu massives, c'est une information très forte et qu'on comprend à peu près bien à partir des modèles de formation de systèmes planétaires.
D'autres questions ?
Oui, une question de méthodologie. Comment vous faites pour débiaiser la partie de vos graphiques où il y a des petites planètes, en fait, parce que si vous ne les voyez pas, vous voyez ce que... Enfin...
Tout à fait, ouais, c'est une bonne question, c'est compliqué. Mais
oui, ça me semble peut, même, alors, très difficile. En
même
fait,
quand on a zéro détection, on peut quand même mettre des limites, parce que alors c'est, quand on est à zéro, pour le coup, c'est un peu limite, c'est un petit peu bancal, c'est un petit peu incertain, mais on arrive quand même à avoir une connaissance, l'instrument tel qu'il est, on arrive à prédire qu'est-ce qu'il devrait être capable de détecter. Et donc, si on ne le détecte pas, on peut en conclure que ces planètes-là sont absentes. Mais en effet, c'est un petit peu risqué. Faire de la statistique quand on a au moins quelques détections, c'est beaucoup plus solide. Mais ceci dit, là, enfin, c'est plutôt la figure précédente. Sur la gauche, là, il n'y a quasiment aucune détection, mais vous voyez que les barres d'erreur sont très grandes. Et sinon, partout ailleurs, il y a des détections. Donc, on arrive quand même à avoir une idée. Mais en effet, c'est très clair que quand il y a peu de détections, les barres d'erreur sont très grandes.
D'autres questions ? Je vous ai vu, mais je commence par le
proche. Bonsoir. Dans la courbe que vous avez montrée sur Ursa Major, tout à fait au début, mm-hmm. Il me semble qu'il y a des dates qui sont bien antérieures à 1995.
Ah, j'aime bien cette question.
Et donc,
pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas publié avant Major et Kellos ?
Exactement.
C'est une bonne question. Je pense qu'ils s'en mordent encore les doigts, mais ceci dit, c'est facile pour nous de rigoler, de dire « Ah, ils n'ont pas publié ». À cette époque-là, il faut se remettre dans le contexte. Des gens qui faisaient des vitesses radiales pour chercher des planètes, déjà, ils ne l'annonçaient pas très clairement. Ils le disaient, mais en fait, chercher les planètes extrasolaires, c'était un sujet, ça faisait des siècles qu'on essayait de faire ça, et on n'y arrivait pas. Donc déjà, il y avait cette difficulté mentale, qui n'est pas du tout à négliger. Évidemment que c'est une difficulté mentale. Et donc, ils faisaient des programmes, ils observaient leurs données, mais bon, ils dépouillaient leurs données, ils les regardaient, peut-être pas avec suffisamment d'attention. Et voilà, c'est ça l'histoire, quoi. Parce qu'en effet, si on regarde juste les points avant, on se dit, ils l'avaient, leur planète, en 93, ils l'avaient. Ils n'avaient pas regardé les données telles qu'il fallait, et c'est souvent comme ça en science. De nouveau, la science, c'est à la fois des observations, il fallait des bonnes observations, mais en effet, vous avez raison, ces observations-là sont suffisamment bonnes pour détecter la planète. Mais il fallait avoir la présence d'esprit, comprendre ce qui fait être pertinent, bien réfléchir, etc. Et ça, forcément, 30 ans après, c'est facile pour moi de me dire « ils auraient pu la trouver avant ». Mais à cette époque, c'était pas si facile. Quelque chose d'intéressant aussi de voir, c'est qu'aujourd'hui, quand on signe un papier, un article scientifique en exoplanète, généralement, on est 10, 20, 30, 100 auteurs et autrices, parce que c'est des gros projets, plein de gens travaillent dessus. Major et Kellos, leur papier, ils sont deux auteurs. Les gens qui faisaient ces études-là, c'était aux États-Unis, ils étaient deux ou trois à travailler là-dessus. C'est les petites équipes qui travaillaient, qui faisaient leurs petits travaux. Et ça aussi, c'est un gros changement donc en une trentaine d'années.
Vous ne pouvez pas l'attribuer à l'étoile elle-même ?
Alors, c'est une grande question, une question pour les youtubeurs qui n'ont pas le micro. On disait, mais est-ce que les variations ne pourraient pas être liées à l'étoile elle-même ? Bien sûr, et d'ailleurs, ça a été un grand débat. Quand il y a eu la première planète 51 Peg B, donc le premier Jupiter chaud, il y a eu des articles qui sont sortis là-dessus en disant « Ah oui, mais les étoiles elles-mêmes peuvent avoir des variations de vitesse radiale intrinsèques, notamment liées à l'activité stellaire. » Par exemple, un exemple qu'on peut donner qui est tout simple, les étoiles pulsantes qui grossissent, qui rapetissent, qui grossissent, qui rapetissent. Sur la voie, elles s'approchent, elles s'éloignent. C'est la même chose. Les étoiles pulsantes, on sait que ça existe. Donc c'est une difficulté. Bon, 51 Peg, c'est clair que ce n'était pas une étoile pulsante. Mais ce type de questions pouvait se poser. Donc il y a plein de questions liées à l'activité stellaire qui sont étudiées, qui sont beaucoup étudiées maintenant, mais on arrive à les surmonter plus ou moins efficacement. En fait, plus les planètes sont de faible masse, donc plus les amplitudes de vitesse radiale sont basses, plus cette question de l'activité stellaire devient gênante et pose un problème, mais elle arrive à être traitée petit à petit. Mais c'est évident qu'en 92-93, on n'avait pas une si bonne connaissance de l'activité stellaire vue en vitesse radiale que celle qu'on en a maintenant.
J'ai une question. À quelle distance se trouve la plus proche des exoplanètes qu'on a observées ?
Alors, dans Proxima Centaure, donc l'étoile la plus proche de nous a des planètes, le système a des planètes, à 3 années-lumière, ou je crois que c'est 3, hein, quelques années-lumière. Mais en gros, je vous dis, ces étoiles-là, quasiment toutes les étoiles ont des planètes. Donc en fait, la plus proche, on a aussi. Mais il se trouve qu'on les a détectées.
Oui, bonsoir. Question inverse. Parmi les 6000 exoplanètes découvertes, quelle est la proportion de ces planètes situées dans une autre galaxie, notamment Andromède, la plus proche ?
Alors, elles sont toutes dans notre galaxie. On cherche dans notre galaxie.
Oui, dans une autre galaxie, oui, pardon. Oui.
Mais par contre, il y a une méthode dont je n'ai pas parlé, qui est utilisée par plusieurs collègues ici à l'Institut d'Astrophysique de Paris, la méthode des micro-lentilles gravitationnelles. Je ne vous en ai pas parlé, parce que je ne peux pas parler de tout, mais surtout, ce qui est intéressant de voir, c'est que pendant des siècles, on ne détectait pas le planète extrasolaire. Maintenant, on en connaît 6000, mais par 5-6 méthodes différentes. Maintenant, on a plein de méthodes qui permettent de les détecter. De nouveau, ce n'est pas qu'il y a 35 ans, on réfléchissait mal, on n'y avait pas pensé. C'est que les moyens sont arrivés, on s'est mis à réfléchir plus à ces questions, plus de personnes se sont mis à travailler là-dessus, ont obtenu des financements pour développer des techniques plus performantes. Donc, de nouveau, ça illustre bien comment un domaine scientifique progresse. Et donc, celles qui sont faites par micro-lentilles gravitationnelles, elles sont vues surtout vers le centre de la galaxie. Donc, elles sont assez éloignées, ces planètes, en direction du centre galactique.
Est-ce qu'elles ont des caractéristiques différentes ?
Alors, est-ce qu'elles ont des caractéristiques différentes ? Oui, la méthode des micro-lentilles gravitationnelles, elle est très efficace pour trouver des petites planètes. Enfin, très efficace. Elle ne trouve pas beaucoup de planètes en nombre. C'est quelques dizaines de planètes qui ont été trouvées par cette méthode-là. Mais par contre, elle est très forte pour trouver des planètes petites, de petite taille, loin de leur étoile. Dans la zone là, que je vous ai montrée tout à l'heure, si je remonte, est-ce que je vais la retrouver ? C'est cette figure-là, voilà. Dans la zone qui est en bas à droite, là, les quelques points-là, alors, il n'y en a pas beaucoup, mais ils sont très, très intéressants et je pense que tout cela, ils sont trouvés par la méthode des micro-lentilles gravitationnelles.
Alors, il y a deux, trois questions sur YouTube quand même, pour qu'on leur donne aussi la parole. Est-ce qu'un Jupiter à des milliers d'années-lumière serait complètement invisible pour nous ? Autrement dit, peut-être tu pourrais nous dire quelle est la plus lointaine exoplanète
détectée. Oui, des milliers d'années-lumière par la méthode des transits, on peut en détecter.
On peut encore en détecter, d'accord. Ensuite, quelle serait la taille d'une planète située à des millions d'années-lumière pour qu'elle puisse être observable ? Alors là, ce serait...
À des millions d'années-lumière, là, on sort de la galaxie, donc on va dans d'autres galaxies, on est à des millions d'années-lumière. Oui. Donc pour l'instant, dans notre galaxie, on ne sait pas faire, mais on peut imaginer que par la méthode des transits, on pourrait y arriver un jour.
Un jour.
Oui.
Un jour.
Mais ceci, il faudrait être hyper motivé parce que, alors évidemment, ce serait extrêmement intéressant de détecter des planètes dans d'autres galaxies, mais c'est sûr que ces planètes-là, on aura vraiment une connaissance très ténue d'elles parce que les observations sont vraiment un peu foireuses, quoi. Donc, on aura du mal à avoir les très bonnes observations. Là, en gros, on se concentre maintenant beaucoup pour détecter des planètes autour d'étoiles proches pour bien les caractériser.
Bon, il y avait une question sur l'ELT, mais tu en as parlé, donc c'est peut-être pas la peine. On va prendre encore une ou deux questions.
Bonsoir. Qu'est-ce qui a déterminé le choix de la première étoile qui a déterminé la première exoplanète ?
Pourquoi est-ce qu'ils ont observé 51 PEG, Major et Kellos ? Alors, il y a deux réponses. La première, c'est qu'ils ont eu de la chance. Et la deuxième, c'est qu'ils ont été, ils avaient l'esprit bien éclairé pour comprendre ce qu'ils voyaient grâce à leur chance. Et les deux, on ne peut pas avoir l'un sans l'autre. S'ils n'avaient pas eu de bol, ils n'auraient pas fait leur détection. Mais s'ils avaient juste eu du bol et qu'ils n'avaient pas eu une bonne connaissance et une bonne perspicacité, ils n'auraient pas eu leur résultat non plus. Donc, c'est les deux. Et donc, en fait, ils observaient un échantillon d'étoiles, plusieurs centaines d'étoiles, qu'ils observaient. Et il se trouve que dans plusieurs centaines, il y avait 51 PEG. Donc, de ce point de vue-là, ils ont eu du bol. Enfin, plusieurs centaines, ils étaient quasiment sûrs de trouver un Jupiter chaud. Maintenant, on le sait rétrospectivement. Mais ils ont eu encore plus de chance du fait que les Jupiters chauds existaient. Parce que ça, personne n'y avait pensé, eux non plus. Ce qu'il aime bien montrer Michel Mayor, parce que tout le temps on lui dit qu'il a eu de la chance. Alors c'est vrai qu'il a eu de la chance. Mais il aime bien montrer, il a raison. Il montre, vous savez, quand on demande du temps d'observation, quand on observe un télescope, on fait une demande de temps, on écrit voilà, je veux observer ça, je veux 3 nuits d'observation pour faire ce super programme qui va être vachement intéressant. À cette époque-là, si on disait de nouveau qu'on voulait chercher des planètes extrasolaires, on se disait c'était pas sûr qu'on allait gagner du temps. Donc en fait, Mayor et Kellos, ils ne travaillaient pas sur les exoplanètes, ils travaillaient beaucoup sur les étoiles multiples. Et il a eu beaucoup de résultats très importants sur les étoiles multiples. Et il aime bien montrer, et il a raison, que sur sa demande de temps, donc il argumentait pourquoi c'est intéressant les étoiles multiples, pourquoi son programme allait être très intéressant pour ça, et il rajoutait, et ce programme pourrait permettre de détecter une planète extrasolaire. Il rajoutait ça, et il a raison de le faire pour montrer qu'ils avaient bien ça en tête, c'était pas sûr, ils n'avaient pas mis tout leur programme là-dessus, parce que bon, c'était quand même un petit peu risqué, surtout Didier Queloz. Didier Queloz, à l'époque, il faisait sa thèse là-dessus. S'il avait fait une thèse sur les exoplanètes en 94, c'était un peu risqué, quoi. Mais Michel Mayor est un bon encadrant, il a mis son étudiant sur un bon sujet, donc il travaillait surtout sur les étoiles multiples, et ça pouvait permettre de détecter les planètes extrasolaires. Il se trouve que ça a été le cas.
Oui, bonsoir. Merci pour cette transmission de connaissances. Quels sont les outils qui vont être utilisés par Plateau ?
Plateau, c'est de la photométrie. Donc Plateau, il cherche des transits, donc en fait, il mesure la quantité de lumière qui vient des étoiles, en fonction du temps. Et le fait qu'il soit dans l'espace, ça fait d'une part qu'il n'y a pas d'interruption jour-nuit, il peut observer en permanence, et puis il y a une bien meilleure précision. Je vous ai montré tout à l'heure, si vous vous souvenez, une courbe de lumière, je vous ai montré celle faite depuis avec un télescope au sol, et après celle avec le télescope spatial Hubble, elle était bien plus précise. Donc Plateau, il est très très précis parce qu'il est dans l'espace, et puis il peut observer des longues périodes sans qu'il y ait l'interruption du jour et de la nuit. Donc c'est cette technique-là qu'il va utiliser.
Et des nuages.
Et il n'y a pas de nuages non plus, tout à fait, tu as raison, oui. C'est une grosse différence.
Ça arrive.
Ça arrive.
Voilà.
L'Observatoire de Provence, rarement,
jamais,
mais quand
bien
même
sûr,
des fois.
Eh bien, bonne soirée à toutes et à tous, et au mois prochain.